Eh bien, on va pas vous parler du livre en tant que tel directement, mais on va plutôt vous montrer comment on a pensé le livre et peut-être plus comment on a travaillé pour créer ce livre. Donc ça va être plus un échange, question entre Pierre, Monsieur Hirsch et moi, parce que c'est comme ça qu'on travaille en fait. On se réunit, on discute ensemble, on échange, on réfléchit. La séance d'après, et on reprend ce qu'on a pensé lors de la rencontre précédente, et on va un petit peu faire la même chose aujourd'hui. Le livre en fait s'est terminé il y a plus ou moins un an. Et depuis un an, eh bien, il y a encore des changements dans les familles d'aujourd'hui, puisqu'il s'agit bien de familles, de nouvelles familles, de familles, on vous dira que peut-être on n'appellera plus trop ça famille, mais bien de systèmes affectifs notamment. Alors on va peut-être commencer avec une première réflexion, question, que je vais donc adresser à M. Hirsch. Monsieur Hirsch dit qu'en fait, on est souvent confronté, nous, les thérapeutes, au fait de réapprendre à désapprendre. Pourrait-on, selon vous, Monsieur Hirsch, faire un parallèle avec ce que nous dit Michel Thor dans son livre « La fin du dogme paternel » Je le cite. « Il est dommage que, trop souvent, les psychothérapeutes s'acharnent à pathologiser le nouveau et à idéaliser le passé. Le savoir psychologique se borne bien souvent à reproduire les stéréotypes de la tradition et des idées reçues. Qu'en pensez-vous ?
Bonne chance.
Merci Pierre, ça va ? Oh là, combien de temps on a ?
Une demi-heure.
Alors, écoutez, je pense que toute la vie, on apprend à désapprendre, on est obligé d'apprendre à réapprendre, parce qu'il y a des contextes qui changent, il y a des ruptures, il y a des modèles différents, bon, etc. Donc, je pense que si on n'a pas ce mécanisme, il est impossible de grandir, voilà. Parce qu'on reste sur place, hein, c'est pas difficile à comprendre. Alors, puisqu'on parle des familles, quand même autour de ça que ça tourne, je pense, et j'ai encore travaillé par hasard avec un groupe ce matin, et j'ai dit on a des stéréotypes dans l'esprit. Et alors, vous avez préparé des notes, moi j'avais aussi préparé un papier, mais ça ne correspond pas tout à fait. Hein. Oh. La première question chez vous, ce n'est pas la première chez moi.
Attendez, mais...
Alors...
Vous, ça commence par une blague.
Mais, en fait. Bah, ça, vous me connaissez quand même. Bon. Alors, c'est une blague, d'ailleurs, qui se retrouve dans le bouquin. Hein, et qu'il y en a ceux qui ont l'habitude éventuellement de rencontrer d'une manière ou l'autre et qui la connaissent. Mais je vais vous expliquer. Quand je parle du changement dans ce qu'on appelle famille, avec les lois de filiation claire, avec les trois R, rank, role, relation, hein, donc vous avez le rang de père, vous avez le rôle de père, et vous développez les relations de père. On peut dire la même chose pour le partenaire de couple, si vous voulez, enfin, d'accord. Alors là, il y a quelque part des confusions qui naissent à l'occasion. Et alors, je vais vous raconter l'histoire, et puis vous verrez. Hein. Alors, l'histoire est... C'est Daniel Zilberstein qui téléphone à son copain, Yankelevitch. Et il lui téléphone et il dit, est-ce que je peux parler à Yankelevitch? Et il y a une petite voix qui répond et dit, il est occupé. Alors il dit, attends, c'est David?
Oui, c'est David.
Tu as 10 ans maintenant, David. Oui, j'ai 10 ans. Et alors, qu'est-ce qu'il fait, papa? Il est occupé. Ah bon? Appelle-moi ta maman. Laquelle? La première ou la deuxième? Bah, les deux, si tu veux. Ah, elles sont occupées. Elles sont là, mais occupées. Ah, il dit, bon, mais alors, appelle-moi un peu tes grands-parents. Lesquels? de mon premier, de ma première maman, de deuxième maman. Est-ce que... qui tu veux? Mais ils sont tous là. Ils sont occupés. Alors, David, écoute, qu'est-ce qui se passe? Mais alors, qu'est-ce qu'il y a? Alors, appelle-moi, si tu veux, ta sœur, ma demi-sœur, ou l'autre sœur. Quelle sœur? Alors, il dit, mais qui tu veux? Mais ils sont occupés. Alors, il dit, mais attends, mais qu'est-ce qu'il y a? Qui y a encore? Il y a la police. La police? Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils sont occupés. Et qui y a encore? Les pompiers. Les pompiers? Mais bon Dieu, mon bon Dieu. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils se cherchent et ils me cherchent. Parce qu'au fond, on ne sait plus très bien à quel niveau, quelquefois, comment on peut aimer, disons, le deuxième couple. Est-ce que je peux aimer vraiment le gosse de l'autre côté? Et si je l'aime, est-ce que j'ai un droit politique de l'aimer? Parce que si je dois décider s'il doit aller à l'école ou changer d'école ou s'il doit aller à l'hôpital uniquement, se faire soigner, j'ai besoin de l'accord de l'autre histoire. Et quand je dis je l'aime, il dit, mais en fait, c'est moi, ma mère, je peux aimer. Le pauvre gosse, il est là-dedans, d'accord? Vous savez très bien que le contexte fait qu'il y a énormément de futurs ex, hein. Ils habitent de l'autre côté, mais s'il y a un drame de l'autre côté, le premier téléphone à la première génération, la deuxième génération, ne pige rien, etc. Et puis, on vient chez les thérapeutes pour clarifier ces situations. Voilà. Et alors, il faut être vraiment très sage, hein. Parce que, et c'est là que je dis qu'on doit apprendre à désapprendre, si on pense avec la rigidité que le gosse qui est, les parents sont séparés depuis 10 ans, le gosse avait 5 ans quand il est séparé, il vit autant de l'autre côté de ce côté, qui aime qui? Qui est responsable de qui? Comment est-ce que vous allez juger ce qui est névrotique ou pas névrotique? Qu'est-ce qu'on fait avec l'Œdipe classique? Pour lequel il y a un tas de gens qui se rincent la bouche, je vais dire, enfin. Eh bien, ça ne marche pas. Il faut une autre approche. Mais pour ça, nous, on est obligés d'apprendre à désapprendre. Et d'essayer en fonction, progressivement. Je dis bien fonction, progressivement, parce que le pire, c'est, dans toute l'histoire, il n'y a pas de modèle. Qui aime qui, comment on peut aimer, jusqu'où on a le droit d'aimer, et si j'aime, je peux prendre la responsabilité pour quelqu'un ou pas. Ça, c'est la grande question, hein, à un certain moment. Eh bien, dans tous les systèmes recomposés, comme on dit si gentiment, on a affaire avec ce genre de problème. Et je dis que ce soit la première épouse, la deuxième épouse, la première mère, la deuxième figure maternelle, etc., tout le monde se cherche. Et tout le monde est obligé d'apprendre à désapprendre pour essayer d'apprendre à réapprendre, je vais dire, parce qu'autrement, on a des problèmes. Et justement parce qu'il y a des problèmes, alors on a la thérapie couple, famille élargie, enfin, etc. Mais, croyez-moi, on est seulement dans le processus, je vais dire. Parce qu'on est confronté avec une rupture d'un vieux modèle, je vais dire familial, dit classique. Je dis bien rupture. Avec d'autres normes, d'autres valeurs et d'autres basic security systems. C'est ça que j'essaie de dire. Et c'est de ça qu'on essaie un peu de parler. Si vous voulez, à la page 32, vous comprenez. Voilà. Voilà. J'ai bien répondu.
Oui.
Non, ça va. Ben, je pense qu'un autre thème qu'on aborde dans le livre, c'est la notion de maltraitance théorique, qui est le fait de plaquer une théorie, je dirais préconçue, sur une situation qui ne correspond évidemment pas à la théorie et qui peut alors, la théorie pouvant alors servir à pathologiser la situation en question. Et donc je trouve que là aussi, on est dans un modèle qui est proche de ce que vous enseignez, c'est-à-dire qu'on apprend autant au contact de nos patients que nos patients apprennent à notre contact. Et la tyrannie des experts qui sont censés tout savoir sur un sujet extrêmement limité, par exemple la famille, et qui tentent de faire coller les situations qu'ils rencontrent à une certaine norme qu'ils ont en tête, me fait penser à une citation, une explication de Michel Foucault dans un de ses cours au Collège de France qui s'appelle « Les anormaux » et qui dit que sous l'œil des experts ou sous l'œil de la norme, on est passé d'une société de lépreux à une société de pestiférés. Et il explique ceci de la raison suivante. La manière dont les sociétés, dont les villes au Moyen-Âge traitaient le problème de la lèpre était assez simple. On excluait les lépreux, on les mettait dans une léproserie, sur une île, un endroit isolé, dont ils étaient exclus de la société. Ce modèle n'a pas fonctionné pour la peste, vu le mode de transmission de la peste. Et ce qui a été mis en place, c'est un système de quadrillage de la cité. Donc les lépreux, on les excluait de la cité, les pestiférés, on ne pouvait pas le faire. Et donc la cité était quadrillée. Et donc elle était divisée en quartiers, elle était divisée en districts, en rues. Et dans chaque rue, il y avait un surveillant. Et tous les matins, chacun se voyait assigner une fenêtre à son habitation où il devait apparaître tous les matins pour faire signe au surveillant de sa rue. S'il n'était pas présent à la fenêtre, ça veut dire qu'il était au lit. S'il était au lit, ça veut dire qu'il était malade. S'il était malade, ça veut dire qu'il était dangereux. Et donc, de ce modèle d'exclusion, on est passé à un modèle de quadrillage interne où sans arrêt, sans cesse, tous les jours, chacun était censé se soumettre à une norme par rapport à laquelle tout son comportement serait alors jugé. Et je trouve que par rapport au discours de certains experts de la famille, eh bien, on est parfois dans une société de pestiférés.
Non, je ne sais pas. Au fond, je suis frappé par l'exemple que vous donnez, mais je pense que on est dans une phase où je pense on est confronté, en tout cas pour un élément de base qui était et est la famille. C'est un peu comme l'art constructiviste, là, vous savez, où on peint en fonction du réel, et le réel était le père et ça, la mère et ça, l'enfant et ça, etc., etc. Quand moi, j'étais jeune, quand on divorçait, eh bien, si vous alliez dans un temple ou dans une église ou dans une synagogue, vous étiez au bout des rangées, hein, je vais dire. Il n'y a personne qui vous invitait spécialement, il faut le savoir, hein, je vais dire. Actuellement, ce problème a complètement évolué et changé. Moi, je ne discute absolument pas la dimension, mais le pourcentage est quand même relativement important dans notre société où il y a la séparation qui existe, je vais dire, et que des gens sont très heureux de le faire. Et la seule chose qu'il y a, c'est que, ce que j'ai noté ici, c'est qu'on doit accéder à d'autres formes d'éthique, de solidarité, de fraternité, individuel ou de groupe affectif. Parce que autrement, si on reste avec les autres conceptions plus ou moins rigides, qu'on dit c'est ça la réalité, et vous savez qu'un des grands problèmes est, et vous le savez comme moi, que les lois, et c'est là qu'on trouve sur la société, je retombe sur la société, les lois changent 10 ou 15 ans après qu'on a eu les problèmes, hein, je vais dire, enfin tout le monde l'a connu, avec l'identité de la femme, le droit de la femme, enfin, etc. Quand j'étais jeune, une femme ne pouvait pas avoir son compte, hein, je vais dire, enfin, en banque, hein, je vais dire, sans l'accord de son mari, si vous voulez, par exemple, même si elle travaillait. Alors, les lois ne suivent pas toujours. Ce qui forme, pour moi, d'ailleurs, une des idées, enfin, il y a des gens qui savent ça ici, qu'on devrait, plus ou moins, aider à la formation des juges de la jeunesse et des juges de la famille, comme on les appelle. Parce que, quelque part, comment accompagner ce changement d'éthique, ce changement des droits individuels, ce changement d'éthique de groupe, etc. Et c'est ça que je pense qui est un facteur important. Et ça, ils ne l'ont pas fait à ce moment-là. Bon.
Je vais encore vous faire travailler. Vous nous avez souvent parlé d'intelligence relationnelle et d'intelligence émotionnelle. Est-ce que vous pourriez un petit peu redévelopper ici
Tout le monde connaît. Hein.
Vous pensez?
Tout le monde connaît. Hein. L'intelligence, d'ailleurs, on est tellement convaincus qu'on sait mesurer l'intelligence intellectuelle. C'est comme ça qu'on a fait les IQ. Vous allez être dans une boîte quelconque, dans certaines écoles, pour certains gosses, on va mesurer l'IQ. Et puis on va dire, tiens, le gosse, le pauvre, il a que 100. Hein? Et le génie, il a 140, d'accord? Bon, et alors, et maintenant? Et puis on voit que le génie de 140 double. Et le gars de 100, ben, c'est très bien, mais il réussit parfaitement à faire des études. D'accord. Alors, moi, j'ai dit, il y a... Ben, c'est que tout le monde connaît, je m'excuse. Là, vous êtes en train de me mettre sur une piste que tout le monde connaît. Il y a l'intelligence dite intellectuelle, comme on dit, qu'on peut mesurer, plus ou moins, comme on dit. Et il y a l'intelligence... avec laquelle je choisis mon partenaire relationnel, avec lequel, émotionnel, avec lequel j'essaie d'accompagner mes gosses, ou même le type le plus intelligent se fait dire par son épouse ou par le réciproquement, ben, au fond, t'es bête, hein, tout le monde croit que t'es intelligent, mais t'es pas intelligent pour un rond. Hein. Ma femme, t'es pas là, non. Alors, il y a l'intelligence relationnelle des sentiments, des émotions, que je ne pense pas qu'ils sont mesurables. On peut peut-être étudier des blocages, je veux dire, ça c'est peut-être possible. Mais mesurable, je trouve que c'est extrêmement difficile. Il paraît que maintenant on peut, mais il y a probablement des psychologues ici qui savent me dire comment on fait. Et il y a l'intelligence dite intellectuelle. Et je prétends que les thérapeutes de couple et de famille sont confrontés avec cette situation d'une manière vraiment importante. Pourquoi ? Vous savez que si vous avez quelqu'un sur le divan et vous êtes analyste, eh bien vous contrôlez assez bien votre contre-transfert et votre transfert, je pense. Si vous êtes en face d'une famille recomposée, avec les grands-parents, les enfants, les parents, etc., eh bien, celui qui arrive à contrôler tous ses transferts et contre-transferts, je lui paye une bouteille. Hein. Parce que c'est presque impossible en face des émotions relationnelles qui se développent, je vais dire, et qui n'ont rien à faire avec l'intelligence à un certain moment. Absolument rien. Et c'est pour ça que je dis que quand on réfléchit à notre métier... on doit essayer de réfléchir sur cette intelligence relationnelle, enfin relationnelle, comment on agit, comment on réagit. Je ne parle pas, parce que quelquefois, quand on travaille comme ça avec des couples et des familles, penser transfert contre transfert, ce n'est pas facile, je vais dire. Si, en théorie, on connaît ça. Mais dans la pratique, je dis qu'on ne sait pas se protéger contre ce gosse j'aime bien, ce père il mérite... cette mère, maman, je la trouve malheureuse. Enfin, bon, on peut y aller. Eh bien, c'est là qu'on a une réflexion à avoir sur rationnel. Je parle entre autres du dit thérapeute, avec quoi il est confronté, en face des systèmes transgénérationnels, mais pas du tout dans le sens classique où on a clairement papa, maman et le grand-père et la grand-mère. Pas du tout. On travaille avec des gens qui sont pas la vraie grand-mère, ni le papa vrai, ou la vraie maman. Et alors, là, on a à gérer des problèmes relationnels et émotionnels qui sont pas toujours très clairs pour nous-mêmes. C'est ça que je vais dire, moi.
Je sais pas si c'est ça.
Oui.
Ben, ce qui me fait associer à une partie du livre... où lorsqu'on parle un peu de la prise en charge de ces nouvelles structures familiales, on introduit, c'est pas nous qui l'avons inventé, le paradigme communicationnel. Et donc en gros, on peut dire que la philosophie était traversée par trois grands paradigmes. Le premier paradigme, c'était le paradigme ontologique, que le monde existe dans sa réalité et que nous devons développer nos outils de perception pour bien percevoir la réalité. Donc cette table existe et c'est à moi d'avoir des yeux et une pensée qui me permettent de la représenter, de la penser correctement. Le deuxième paradigme était le paradigme épistémologique, où dans le fond ce qui est important, c'est pas tellement la réalité, mais c'est la manière dont je perçois la réalité. Cette table n'existe que parce que je me la représente comme une table, et si un extraterrestre débarquait ici, qu'il n'avait jamais vu de table, il percevrait cet objet comme quelque chose d'autre qu'une table. Et le troisième paradigme est le paradigme communicationnel. Et là, je rejoins un peu ce que vous disiez, c'est que finalement, la vérité, ou en tout cas une vérité situationnellement vraie, ne peut être établi qu'à partir du moment où il y a un accord entre les différents interlocuteurs. Et que donc, si nous commençons à discuter du fait que cette table est belle ou non, eh bien nous pourrons arriver à un accord ou conclure au fait qu'il n'y a pas d'accord, pour autant que nous échangions nos points de vue respectifs. Et donc nous co-construisons en permanence, au travers de la relation à l'autre, nous co-construisons la réalité dans laquelle nous évoluons. Et je trouve que ça, c'est évidemment quelque chose qui est d'application dans la prise en charge thérapeutique ou psychothérapeutique des systèmes recomposés et que l'on est, ou de ces nouvelles structures familiales, qu'on est sans arrêt obligé de co-construire avec eux ou avec elles une nouvelle forme de réalité qui ne sera d'ailleurs que transitoirement vraie ou situationnellement vraie. Et cette manière de penser permet d'ailleurs de faire le distinguo qui me semble important entre un accord et une entente. Ça, c'est une distinction qui a été faite par Jürgen Habermas. L'accord, c'est lorsque je partage l'avis de l'autre. Vous trouvez que cette table est belle, je trouve qu'elle est belle, nous avons un accord. L'entente, c'est je peux accepter que vous trouviez cette table belle, même si moi je ne la trouve pas belle, pour autant que les explications que vous me donniez qui font que vous trouvez cette table belle me satisfasse. Et donc je peux accepter votre point de vue, je peux l'entendre sans être en accord avec lui. Et là aussi je trouve que c'est quelque chose qui est important dans la prise en charge de cette constellation de nouvelles structures familiales.
Mais ça me fait associer à l'importance d'observer effectivement et ce qui a justifié aussi ce projet de livre. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de travailler avec les nouvelles familles en fonction de nos propres schémas et de ce qu'on a gardé comme image du passé de ces familles, papa, maman et le ou les enfants à la maison. On n'est plus dans cette image-là, dans cette réalité-là. Et que donc l'important, ce n'est pas ce que nous, on aimerait éventuellement voir, parce que ce serait ça qui serait le mieux pour l'autre, mais bien comment vit l'autre et comment nous, on est avec l'autre et sa différence, et pas du tout avec un schéma stéréotype, comme vous avez rappelé tout à l'heure.
C'est dit, mais beaucoup de gens viennent pour être aidés. Et beaucoup de gens viennent pour demander de l'aide justement dans ces phases de confusion, etc. Et le problème est que très souvent, si on est vraiment direct et spontané, on devrait dire ben moi non plus, je ne sais pas. Enfin, dans ce genre de composition. Et je pense que la grande difficulté est quelquefois que les gens viennent avec l'idée qu'on peut leur donner un coup de main, qu'on peut les aider, je vais dire, quelque part. Mais en face de ce que je disais, c'est qu'on doit trouver d'autres formes. On est confronté avec d'autres formes d'éthique, d'autres formes de solidarité, etc., etc. Et puis, donc c'est pas facile, c'est ça que je veux dire. Et la deuxième chose est, c'est qu'il faut savoir que tout travailleur qui travaille avec les familles, généralement, est supervisé. Mais pas par un superviseur direct. Hein. Généralement, quand le couple vient, le deuxième couple vient avec les enfants, etc., et alors les deux partenaires rentrent chez eux à la maison, l'un téléphone à sa mère et l'autre téléphone à son père. Et qui dit alors qu'est-ce qu'ils ont dit de cette autre famille-là, ou qu'est-ce qu'il a dit, ou qu'est-ce que vous avez dit, et vous avez un superviseur. Hein. Et moi, j'ai l'habitude de dire dans mon travail, généralement, je dis qui sont. Je commence souvent comme ça, qui est mon superviseur? Alors on me dit, mais il n'y a pas. Je dis, bah, allez, vous avez une tante, une amie de cœur, un truc qui va superviser, évaluer ce qu'on fait ici en fonction du clan 1, du clan 2 ou du clan 3. D'accord ? Et généralement, je demande, je dis, je ne partage pas mes honoraires, mais je veux bien partager les avis. Et quand les gens viennent, je dis, qu'est-ce qu'on a pensé du dernier boulot ? Pas qu'est-ce que vous avez pensé du dernier boulot. Et alors tout le monde rigole et dit, oui, ma mère, cette fois-ci, était d'accord avec vous, merci. Et quelquefois, enfin, voyez, c'est le genre. Hein. Donc je dis, on est continuellement dans... C'est ça la réalité, croyez-moi. Vous croyez que vous êtes le patron du système ? Rien du tout, vous êtes supervisé. Vous pensez à des superviseurs directs ? Rien du tout. On est supervisé par l'extérieur. Hein. Donc on est obligé d'apprendre comment on gère les superviseurs extérieurs. Et ce n'est pas facile toujours. Surtout que si vous avez exactement un avis contraire de ce que la mère ou la belle-mère ou le beau-père ou l'oncle ou la tante ou je ne sais pas qui pense. Mais on est obligé de parler de ça. C'est pour ça que j'ai dit c'est un système un peu différent. Je ne sais pas, vous comprenez ? Parce qu'il y a les clans 1, les clans 2. Je ne dis pas négativement le premier couple, le deuxième couple, mais toute une famille derrière. Il y a tout un système derrière. Et il est important qu'on en parle, je vais dire. Et vous devez savoir que vous êtes supervisé par ça, si vous travaillez. Voilà.